Sur le pont des arts, Nathalie Amard.
Bonjour à toutes et à tous. Transformer des tombereaux d'insultes en spectacle. Faire du beau avec du lait, de la haine et des préjugés. Une œuvre d'art et ainsi peut-être alerter sur les souffrances que peut infliger à une personne différente, trop ceci, pas assez cela, l'anonymat des réseaux sociaux. Surveillé et puni, c'est un pari artistique, un spectacle hors norme créé en mai à Montréal et qui passe aujourd'hui par Paris. Une réflexion sur la parole publique, la liberté d'expression et ses limites qui nous confronte à l'un des maux du temps, le harcèlement en ligne. La chanteuse Safia Nolin et le metteur en scène Philippe Cyr sont avec nous aujourd'hui sur le Pont des Arts. Bienvenue. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Safia Nolin, c'est votre histoire à vous qui se retrouve ainsi sur scène. Je dois dire que on souffre avec vous, mais on se laisse aussi prendre à ce jeu du spectacle. C'est une façon pour vous de mettre à distance ce que vous avez subi?
En fait, non, je trouve que c'est plus une façon de vivre, de l'accepter, là, parce que justement, c'est un truc qui te suit. Puis le réflexe, c'est sûr, de vouloir s'en détacher est normal et humain, mais c'est impossible.
Mais il faut faire avec.
Là, il faut faire avec, puis là, c'est comme l'accepter, puis le transformer, puis faire juste un avec ces messages horribles.
On parlera encore de théâtre avec vous, Solène Gardré, bonjour.
Bonjour.
On sera au Théâtre de la Tempête, en l'occurrence, pour le spectacle Caldoun. C'est une grande fresque sur la déportation des insurgés vers la Nouvelle-Calédonie à la fin du 19e siècle.
Et oui, Nathalie, dans ce spectacle, on va découvrir ou redécouvrir trois histoires qui se mêlent, celles des Algériens, des Communards et des Kanaks, trois communautés qui, dans les années 1870, étaient envoyées au bagne en Nouvelle-Calédonie.
Et puis, on poursuivra notre tour du monde des libraires, étape ce mardi à Bucarest. Bonjour Mathieu Fabre.
Bonjour.
Merci d'être en ligne. Vous travaillez pour Kiralina, la seule librairie francophone de Roumanie. Et vous avez choisi de nous parler du dernier roman de Christiane Foulage. Ça s'appelle La pire espèce.
Oui, et je suis très content d'être avec vous ce soir pour parler de la traduction en français de cet ouvrage. De l'ouvrage d'un auteur qui est un véritable ovni des lettres roumaines contemporaines et qui, dans ce livre-là, va nous dépeindre de façon crue et très acide la caste politico-médiatique roumaine.
Et on est très contents, nous aussi, de découvrir ça avec vous tout à l'heure.
RFI sur le Pont des Arts.
Safia Nolin, surveillé et puni, le titre de ce spectacle, quand on ne le connaît pas, fait davantage penser à l'univers carcéral qu'à ce que vous allez nous faire partager. Vous avez eu le sentiment à un moment d'être prisonnière de cette situation, enfermée dans ce statut de cible sur les réseaux sociaux?
Absolument. C'est sûr que bon, le titre est plus une idée de Philippe qui pourra parler complètement du sujet. Mais oui, je me suis beaucoup retrouvée dans le... Dans cette forme-là d'emprisonnement du public, là, il y a eu plein de moments où est-ce que d'ailleurs j'ai pris la poudre d'escampette littéralement, puis je suis partie, puis je me suis cachée, entre gros guillemets, plus réfugiée ici parce que c'était plus vivable pour moi d'être une humaine, une artiste ou juste une... moi, là, dans le Québec, de façon publique et médiatique.
Ouais. Au début du spectacle, Debbie Lynch-White, qui est votre double sur scène, se trouve de dos au bord de la fosse, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas, comme un chef d'orchestre, mais assise face à un chœur qui chante donc tous ces commentaires malfaisants, toutes ces insultes. Alors, vous teniez, et on va évidemment respecter cela, à ce que ces insultes ne soient pas reproduites ici, mais on peut les imaginer si on connaît les réseaux sociaux. Dans ce chœur, Philippe Cyr, les chanteurs sont masqués, comme le sont ceux qui harcèlent Safia Nolin sur les réseaux sociaux. C'était ça, le parti pris?
Oui, absolument. Ils sont masqués. En fait, c'est une manière de questionner l'anonymat, de questionner aussi qui sont ces gens-là qui véhiculent tant de haine sur les réseaux sociaux. Qui sont-ils? Puis je pense qu'on peut... ce qui est un peu peut-être choquant, c'est que ces gens sont... peut-être plus près de nous qu'on peut penser. Donc, on peut imaginer que cet autre est super loin, cet autre qui prend la parole d'une manière anonyme avec autant de violence. Mais au final, c'est peut-être quelqu'un de notre famille aussi.
Oui. Et ils sont d'ailleurs physiquement très proches sur la scène. Wow. Elle est immergée dans cet univers-là. Pourquoi la forme du cœur comme un cœur antique pour dire attention, ce que vous allez entendre concerne tout le monde, concerne la cité?
Entre autres, aussi sur la question, ou en tout cas sur une tentative principale dans le projet qui est sur le geste de la sublimation. Alors, comment utiliser la musique pour transformer ces paroles haineuses-là? Mm-hmm. Alors, c'est des propos qui sont hideux, très, très laids. Vous en avez parlé tout à l'heure. Alors, le spectre des propos peut aller de l'insulte très ordinaire, presque juvénile, jusqu'à la menace de mort. Donc, ça va très, très loin. Donc, comment transformer cette matière-là en autre chose?
Ouais, il y a ce parti pris, donc, de mettre le spectateur lui-même face à ce déferlement d'insultes. C'est pas anodin, quand même. C'est un choix assez radical de mise en scène, Philippe. On aurait pu évoquer cette séquence et ce harcèlement insupportable pour Safia Nolin et pour d'autres autrement.
C'est vrai, mais je pense qu'on n'a pas pleine conscience de l'ampleur de cette haine-là. Je pense qu'on en a une idée, consciente, peut-être rationnelle, mais de vraiment ressentir une quantité phénoménale de propos haineux, de la comprendre dans notre chair, de l'entendre, de la vivre sur place, dans un chemin qui est plus celui de la sensation que de la compréhension. Il y a là une expérience qui est vraiment différente.
Alors, ce à quoi on est confronté aussi devant ce spectacle, c'est la récurrence de l'évocation de la mort, hein, qui est formulé de mille façons différentes. Alors attention, j'ouvre les guillemets, hein, le jour de ta mort serait une très belle journée, pends-toi, un bon gros dodo, ça ne te tenterait pas. Safia Nolin, indépendamment du spectacle, comment humainement vous avez tenu face à cela? Est-ce qu'il était possible à certains moments de s'extraire de ce flux ininterrompu de paroles blessantes?
Ben, en fait, non. C'est ça qui est difficile, c'est que ça devient... quelque chose qui est dans ton quotidien, comme des genres de fantômes, de noirceurs qui te suivent partout. Il y a eu plein de moments où est-ce que j'ai mis en question toute ma place dans le monde, tu sais, comme tout le monde, mais là, vraiment de façon ultra-violente, en me disant si je disparaissais du jour au lendemain, il y a beaucoup de gens qui seraient contents. Mm-hmm. Ça, c'est difficile, c'est sûr. Bon, mais venir ici, ça m'a fait du bien. Relativiser aussi que le Québec, ben, c'est le centre de mon monde, mais c'est pas le centre du monde.
Ouais.
Il y a plein d'endroits dans le monde où les gens ont aucune idée chez qui j'ai le droit encore d'avoir une première chance. Puis tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, c'est triste, là. Moi, souvent, je me dis, les gens, ils ont déjà une opinion préconçue sur moi, mais c'est sûr que, tu sais, genre, mes proches m'ont beaucoup aidé. Mon chien, qui est comme une source d'amour...
de réconfort.
Inconditionnel et de réconfort. Tu sais, mon chien, il sait pas ce qui se passe à l'extérieur de elle n'a pas d'opinion politique. Elle n'a pas d'opinion. Ben, je pense que oui, là, je pense que c'est un chien à gauche.
Il n'a pas de compte Twitter.
Elle n'a pas de Twitter. Elle s'en fout. Là.
Parce que vous le racontez, et on va l'entendre d'ailleurs tout à l'heure dans un extrait, c'était 2 à 3 messages de haine par minute, c'est ça? À un certain moment, au moment les plus, on va dire, les plus...
Je pense que je l'ai sous-estimé, en fait, parce que quand je dis ça au téléphone à la police de façon vraiment franche, mais... je me souviens mettons, rafraîchir tout le temps la page puis d'en voir 3 ou 4 à toutes les... Je crois que c'est plus 3-4 secondes dans le gros pic où est-ce qu'en une minute, je devais recevoir genre 100 messages.
Ouais.
Tu sais.
Ouais. Et l'effet d'entraînement, évidemment, des réseaux sociaux ne faisait qu'accentuer ça. Le spectacle a été conçu à partir de la matière première donc de ces réseaux sociaux. 561 comptes, hein, c'est ce que vous racontez, répertoriés pour avoir proféré des insultes. Donc toute la première partie, ce sont ces insultes grossophobes, homophobes, racistes, sexistes. On en a vraiment jusqu'à l'écœurement.
Ouais.
Et puis, il y a comme un intermède qui se présente comme ça. Vous avez repris votre guitare, Safia Nolin, et vous êtes sur scène.
Il y a des chemins que j'aime emprunter. Tant pis, on voit rien. Au moins, je c'est l'enfer qui vient. pour tout recommencer. Trouver un miroir qui va pas nous couper. Le feu qui s'en vient, bien pas pour briller. C'est
extrait donc de ce spectacle Surveillé et puni, où vous chantez, Safia Nolin. Vous avez recommencé à chanter d'ailleurs dans le studio 41 d'RFI. Nous aurait presque fallu une guitare pour continuer. C'est la seule arme finalement, continuer à chanter. C'est la réplique, en tout cas c'est comme ça qu'on l'aperçoit dans le spectacle. Laissons de côté tout ce déferlement et puis remettons-nous à chanter, à faire ce que l'on sait faire et ce que l'on aime faire.
Oui, ben c'est surtout, ça peut apparaître clair pour tout le monde, mais pas tant pour moi. Puis c'est surtout Philippe qui m'a fait réaliser ça, tu sais, qu'au final, ça restait le truc. Même moi, j'ai perdu un peu mon identité dans tous ces grands moments de haine, parce qu'au final, tu t'oublies, t'es qui, tu sais plus pourquoi les gens te détestent, tu sais plus pourquoi les gens te connaissent aussi, tu sais. Puis
Vous a reconnecté à votre identité
beaucoup,
de chanteuse.
Reconnecté à ça en me disant qu'est-ce que tu as envie de répondre à ces gens-là, comment tu te sens par rapport à ci, par rapport à ça. Tu sais, je veux dire, au final, à chaque fois que je vais mal puis que j'ai envie d'abandonner l'art, je finis tout le temps par avoir envie de le faire, mais ça m'apparaît pas clair pour moi vraiment si c'est la bonne chose. Puis là, pour moi, le spectacle, le fait que Philippe l'a vu clairement, que c'était ça.
À quel moment, justement, vous avez décidé, ensemble ou chacun d'un côté, je sais pas, d'en faire un spectacle? Comment est née cette idée? Philippe Cyr, peut-être?
Moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de parler de liberté d'expression, mais surtout de la responsabilité qui s'accompagne avec. Donc ça, c'est un des chemins. Et un peu auparavant, Safia m'a téléphoné, son équipe m'a téléphoné pour qu'on fasse un spectacle ensemble au Francophonie de Montréal, donc un grand spectacle sur la place des festivals devant 15-20 000 personnes. Puis un jour, Safia m'arrive avec un montage d'un des extraits d'une radio poubelle à Québec, donc une radio... je dirais de droite, voire d'extrême droite, où on critique Safia d'une manière absolument incroyable. On ouvre les lignes aux auditeurs, on met la musique de Safia
Auditeurs
appellent pour insulter Safia
sans
sur
filtre.
Sa musique. Un truc absolument incroyable. Safia me dit, j'ai fait un petit montage. Qu'est-ce que t'en penses? Et on diffuse ça sur la place des festivals. Là, j'étais, oh, cette fille... Elle est willing, mettons. Donc, je me suis dit, OK, super, faisons-le. Et on l'a essayé.
Et ça a été le début, en fait, de l'idée du spectacle.
Exact. Ça a été la bougie d'allumage. Alors, nos cerveaux se sont croisés autour de ça. Ça a été la bougie d'allumage. Et puis, l'effet sur les gens durant ce spectacle-là a été absolument incroyable. Je crois que ça nous a marqués tous les deux. Puis, quelques années plus tard, on s'est retrouvés autour de Surveiller Puni.
Est-ce que vous avez compris... à un moment, Safia Nolin, pourquoi ce déferlement de haine? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'explication? Ou est-ce que c'est juste une magistrale illustration de la bêtise humaine et de l'esprit moutonnier? Est-ce que vous avez cherché des explications?
Oui, ben, beaucoup. C'est genre complètement humain d'essayer de comprendre la cause d'un problème. J'ai cherché. Au début, c'était très clair pour moi que... Tu sais, moi, la haine, elle a commencé quand j'étais arrivée dans le paysage médiatique au Québec. J'étais différente, puis les gens m'insultaient beaucoup sur mon apparence physique. Les gens m'insultent encore beaucoup sur mon apparence physique, mais je voyais aussi que ça venait d'un endroit de où est-ce que c'était souvent des femmes plus vieilles. Je me disais dans ma tête que c'était pour... parce que c'était difficile d'avoir porté tous ces fardeaux-là de rentrer dans des codes, puis de voir une femme se libérer de ça, ça peut être difficile. Genre, j'avais de l'empathie pour ces gens-là. Il y avait des vieux monsieur aussi, des jeunes, blablabla. Mais plus le temps avançait, plus que j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de transfert où ça a commencé par ça, puis ça, en même temps, il y a eu une montée de la droite qui a peur de tout ce qui est différent, qui a envie de faire disparaître les personnes queer, racisées, grosses, poilues, les femmes. Puis j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce d'un croisement qui a rendu ça vraiment pire. Parce que peut-être que ça serait juste tomber dans une craque puis j'aurais pu continuer ma vie, mais au contraire, ça l'a ça a pris une envergure tellement...
Il y a la bêtise, il y a le contexte, et puis il y a l'outil des réseaux sociaux aussi.
Oui, pour moi, ça fait du sens en 2024, en 2023, que moi, je fasse partie de... des gens détestés par la droite.
Celle que l'on va écouter tout de suite, c'est DJ Black Madonna, ou plutôt The Blessed Madonna, Safia Nolin, parce que ce nom de Black Madonna, Madone Noire, que s'était choisi Maria Stamper pour nom de scène, eh bien, il lui a valu des insultes aussi, une pétition en ligne. Alors elle a tenté de se justifier en disant que la Vierge Noire, pour laquelle sa famille catholique avait une véritable dévotion, bah c'était une référence culturelle pour elle. Rien à faire, elle a dû changer face à la pression. Elle a dit pour elle aussi que cela a été un sujet de confusion, de douleur, de frustration. Vous connaissiez cette histoire ?
Non.
Alors on va l'écouter.
Je l'écoute.
Of Saturday Night, The Blessed Madonna avec Kylie Minogue sur le Pont des Arts. Safia Nolin apprécie apparemment. J'adore. On est content. Philippe Cyr aussi. Ils sont avec nous pour ce spectacle Surveillé et puni. Alors à un moment dans ce spectacle apparaissent des cartes ou des photos satellites hein, pour suggérer une localisation, une vue aérienne, un peu comme dans les films de guerre, hein, lorsqu'on localise la cible avant de faire feu. Vous êtes senti, vous, Safia Nolin, désignée à un moment donné comme une cible avec une peur physique pour votre vie?
Ouais, vraiment beaucoup. Je recevais des menaces de mort. Et aussi, il y avait ce gars qu'on n'a jamais trouvé, ben, que moi, j'ai trouvé, mais que la police a comme un peu refusé de voir, qui faisait ces graffitis-là partout dans la ville.
Ouais. Vous parlez de la police, justement. Nouvel extrait de ce spectacle. Lorsque vous appelez la police, et on a vérifié avant de démarrer l'émission, ça n'est pas un montage, ça n'est pas un jeu d'acteur, c'est un véritable enregistrement que vous avez pris. Vous appelez la police donc pour faire part de votre peur.
Bonjour, j'appelle parce que je suis une personnalité publique qui reçoit des menaces de mort depuis 6 mois, puis il y a eu des graffitis aussi haineux à mon propos.
Si on utilise les réseaux sociaux, donc si on a des comptes, c'est ça qu'il faut s'attendre à avoir un retour. Je veux dire, moi, des fois, je poste quelque chose, mettons, sur mon mur. Si je poste rien, il n'y arrivera rien. Mais des fois, je poste quelque chose sur mon mur, il faut que je m'attende à créer des réactions. Est-ce qu'elles sont toujours positives? Non. Là, c'est sûr que là, vous êtes une personnalité publique, donc moi, on s'entend, tous mes comptes sont fermés.
Non, mais c'est juste que je pense qu'il y a une bonne différence entre, tu sais, mettons, avoir des mauvaises réactions. Puis, tu sais, je veux dire, dans le pic de tout ça, je recevais environ 2 à 3 messages de haine à toutes les minutes. Là.
Mais pas toujours dans les personnes.
Non.
On peut pas porter plainte d'harcèlement contre une population.
Ben non, mais c'est parce que moi, j'ai peur pour ma sécurité, madame. Là. Vous comprenez-tu? Okay. Genre, comme le monde, ces personnes-là, ils peuvent pas avoir au moins un avertissement qui se font dire, genre, comme... Ne dites pas ça à du monde, genre je vais la passer au cash si je la croise, ou bien comme crève, genre tu sais.
Souhaiter la mort de quelqu'un, là, puis souhaiter que cette personne-là meure, il n'y a rien de criminel là-dedans. Il n'y a absolument rien de criminel là-dedans.
Voilà, on a dû couper au montage hein, parce que la conversation est longue. Vous ouais. essayez d'argumenter face ouais. à la personne que vous avez en ligne. Ça vaut un édito. En fait, il n'y a plus rien à dire. C'est-à-dire que la force publique face à ce que vous lui décrivez ne comprend rien et est impuissante.
Ouais, ouais, ouais. Mais en fait...
C'est un refus.
C'est un refus aussi. C'est pas juste on peut pas, c'est on veut pas. Tu sais, on le sent. Je l'ai senti à plusieurs autres moments parce que ça, c'est un appel, mais il y en a eu plusieurs. J'ai fait plusieurs plaintes. Aucune a été retenue. Puis, tu sais, je veux dire, c'est des plaintes avec des photos, des vidéos, avec des plaintes qui ont été faites par d'autres personnes qui ont été refusées. Puis, j'ai senti vraiment qu'il n'y a pas eu.
Vous voulez expliquer ce refus? C'est parce que c'est vous? C'est parce que c'est ouais. de la négligence? Non. C'est un choix?
Moi, je pense qu'on a souvent l'impression que la police, c'est des anges chérubins à qui on a remis des badges et des pistolets. Mais ça reste des personnes qui ont des opinions politiques puis qui sont biaisées. Moi, je pense qu'ils ont refusé parce que c'est moi. Moi, je me suis déjà exprimée aussi pour dire que je trouvais que le service de police de Montréal était vraiment pas... Bref...
À la hauteur?
Ben, c'est juste que, tu sais, ils protègent pas leur population. Il y a plein de racisme systémique. Je me suis prononcée avant, après. Puis là, je le vois de l'intérieur que, tu sais, je me suis mis plein de fois dans la peau de quelqu'un d'autre, que ce soit des chanteuses minces, blondes, hétérosexuelles, que tout le monde aime, qui vivraient la même chose. Ça serait. Il y a des exemples, tu sais, il y a un humoriste.
Si vous aviez été Céline Dion, ça aurait été différent.
Non, ça aurait été très, très, très différent. Genre, ça serait même pas passé, c'est impossible. Mais tu sais, mettons Guy Nantel, qui est un humoriste qui est connu au Québec, qui est controversé aussi parce qu'il y a des idées de droite. Lui, il y a eu une menace de mort, puis l'équivalent du SWAT a débarqué à sa salle pour le protéger. Moi, j'ai eu des conversations au téléphone avec des gens où je disais. J'ai peur. Est-ce que vous allez attendre qu'il m'arrive quelque chose de type que quelqu'un m'attaque? Puis on me répondait, quand il va avoir quelque chose, on va faire quelque chose. C'est vraiment horrible.
Pour mesurer la portée de votre récit, juste quelques chiffres. Là, je vous ramène en France parce que j'ai cherché un peu des infos là-dessus. C'est une association qui s'appelle e-Enfance. 20% des élèves de primaire, donc entre 6 et 10 ans, en gros, ont déjà subi un cyberharcèlement. 1 sur 5, donc. 2024 a été pire que 2023, c'est-à-dire que le phénomène s'aggrave. Et plus étonnant encore, 67% des élèves de primaire sont déjà inscrits sur les réseaux sociaux. Ça bondit. Hein. Quand on est au collège, c'est 93%, 96% pour les lycéens, ce qui doit représenter évidemment aussi pour ces élèves harcelés une souffrance indescriptible. Est-ce qu'il faudrait, où est-ce que vous en êtes rendu aujourd'hui sur ce sujet? Est-ce qu'il faudrait, comme certains pays le font, l'Australie par exemple, dire on interdit l'accès des réseaux sociaux à ces jeunes-là? On le réglemente?
Oui,
Philippe Sire.
Je ne sais pas s'il faut interdire, mais il faut assurément apprendre quelque chose collectivement. C'est une manière de s'adresser les uns par rapport aux autres. C'est comme si on avait perdu un peu notre sens de savoir-être ensemble. Et ça s'applique aussi sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est un espace réel. On imagine souvent que c'est un espace virtuel, mais c'est la réalité, c'est une vraie conversation. C'est des vrais mots qu'on échange à travers ces plateformes-là. Alors, j'ai l'impression qu'on a encore quelque chose à apprendre, ou en tout cas à se ramener à qu'est-ce que c'est que vivre ensemble, puis ben, on doit l'enseigner dès le plus jeune âge.
Ouais. Safia, sur l'interdiction, il faudrait un permis d'accéder aux réseaux sociaux.
En fait, je trouve que moi, les réseaux sociaux, j'ai l'impression que... en ce moment, c'est pourri dans l'os, là, dans le sens où est-ce que je vois pas ce que ça apporte de bien à personne. Je pense que les gens souffrent à n'importe quel âge de leur relation avec les réseaux sociaux. Puis pour l'avoir vu, TikTok, c'est l'enfer. Twitter, c'est encore plus l'enfer. Fait que j'ai l'impression qu'il y a un problème de masse. T'sais, on se poserait pas la question si c'était un service ou un produit qui nous faisait du bien collectivement. On serait comme heureux que nos enfants soient plus éduqués, qu'ils puissent avoir du support pour vivre des trucs. Mais au contraire, ça nous fait mal. Puis je pense que c'est encore pire pour les enfants. Fait que oui, moi, je pense que... Je veux pas dire interdire, mais clairement, il y a une remise en question globale qu'il faut qu'il soit fait.
On écoute un dernier extrait de ce spectacle, Surveillé et puni. Dans ce spectacle, cette séquence terrible où vous, Safia Nolin, et Déby, votre double de scène, vous montrez au public en pleine crise de boulimie, hein, où vous mangez des pâtes à la main, vous en faites même une coiffe, un collier. C'est le moment, en fait, avant la dégringolade. Là, on est à l'extrême, au maximum de l'émotion et de la souffrance.
Non, moi, je vois vraiment plus ça comme un moment où est-ce que, pour moi, puis Déby, c'est un moment jouissif de plaisir, tu sais, on s'amuse, on est nous-mêmes,
Il y a une forme d'appropriation,
il y a une forme,
hein, là,
ouais.
Au sens où elle s'approprie les insultes qui sont dans le spectacle. Par exemple, on s'amuse avec l'idée de grosses nouilles. Donc, elles prennent ces nouilles-là, elles s'amusent avec, elles déjouent les attentes du spectateur. Mm-hmm. Elles sont libres dans ce moment-là, c'est-à-dire qu'elles sont nues sur scène, elles profitent de la matière,
c'est vrai, ouais.
Elles s'amusent. Et nous, nos yeux ne sont pas habitués à regarder ce type de corps, ce type de plaisir. Donc, il y a un challenge.
Donc, c'était plutôt pour vous une façon de mettre en scène le plaisir que
c'était une façon
que la souffrance
de contrecarrer les attentes des spectateurs, puis se dire ben en fait ces femmes là qui sont absolument magnifiques, elles s'assument dans toute leur splendeur, puis dans tout le plaisir qu'elles sont capables d'avoir à être là, d'exister, de s'assumer devant nous, devant des centaines de paires d'yeux.
Dans un instant, on repart au théâtre, mais d'abord musique sur le Pont des Arts.
You see this life thing, yeah, it's all about understanding, bro. You gotta understand what you're doing. You need a direction, bro.
Oh, yeah, no.
What's up on the time? When I just try. When I drop a song, I go need to dance. I do a kakuru kere, I dip in my price. Then I find the sound among all the sounds. I no get a name, I no sing a sound. Sound, Mr. Money sound. I want the precise,
I be
vigilant, militant, military, military, macho, my enemy. Vigilant, vigilant, forgive me, Lord, I die on your knees. Cemetery, cemetery, people, we don't die, people, cemetery. Life ain't no easy, I know ain't no easy, you guys do the thing I'm easy.
Saké et Whiskid avec ce titre. MMS issu de la playlist RFI du mois de janvier. Safia Nolin, Philippe Cyr sur le Pont des Arts. Au menu, encore tout de suite du théâtre. Solène Gardret, vous êtes allée au Théâtre de la Tempête voir Khaldoun, un spectacle d'Abdelwahab Sefsaf sur trois communautés déportées en Nouvelle-Calédonie à la fin du 19e siècle.
Oui, c'était il y a près de 150 ans, dans les années 1870 et 1880. À l'époque, la France coloniale a installé un bagne en Calédonie, ces îles du Pacifique à droite de l'Australie, colonisées par la France en 1853. Et là-bas, elle envoie divers rebelles. Et c'est donc ces gens-là que nous rencontrons dans Khaldoun.
Trois révoltes majeures en moins d'une décennie sur le territoire français. 1878, la révolte Kanak. 1871, la Commune de Paris. Et trois jours plus tôt, la révolte algérienne.
La révolte algérienne de Mokrani. Alors dans cet extrait, c'est le metteur en scène qu'on entend, Abdelwahab Sefsaf, qui est donc aussi acteur. Et c'est en lisant un livre il y a quelques années qu'il redécouvre cette histoire, cette rencontre improbable entre les Algériens qui se sont rebellés contre les colons français et les communards, les révolutionnaires français qui ont fait la Commune, une révolution qui s'est déroulée à Paris pendant deux mois en 1871. Ce spectacle pour Abdelwahab Sefsaf, c'est donc tout d'abord un travail de mémoire.
Quand on a commencé à répéter ce spectacle, c'était précisément au début des émeutes à Nanterre. Il se trouve que bon, moi, je dirige le théâtre de Sartrouville et qu'on était à deux pas et que je voyais les flammes depuis mon bureau. À ce moment-là, je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes en particulier ne connaissent pas réellement leur histoire. Et je crois que ça participe à cette sensation de déséquilibre, cette sensation de ne pas réellement appartenir à ce pays ou que ce pays ne leur appartient pas. Mais je crois que c'est dans les deux sens. Et je crois que cette sensation, elle prend naissance dans la méconnaissance qu'ils ont de leur histoire. Ça laisse des empreintes. On doit travailler sur ces empreintes-là. C'est l'ambition que j'ai eue dans ce spectacle Khaldoun, pour en faire une matière qui nous délivre en fait de ces traumatismes, de ces chaînes.
On a donc 15 personnes sur scène, musiciens et acteurs, c'est rare autant de monde, qui incarnent un défilé de personnages historiques. Le fil rouge de ce spectacle, c'est Aziz, joué par Fodil Assoul. Cet Algérien kabyle est condamné au bagne. On le suit de sa casbah à la Bretagne, une région à l'ouest de la France où il est emprisonné avec les communards, et notamment Louise Michel, une très célèbre révolutionnaire française.
C'est ainsi que nous fîmes la connaissance des révoltés de la commune. Ce que les gardiens appelaient les fédérés.
Louise dit partout que vous êtes des héros. Des révoltés. On a combattu la colonisation.
Et sais-tu que nous, les communards, on a écroulé la colonne Vendôme, symbole de l'impérialisme français et de la colonisation.
Au décor de la Bretagne succède ensuite la cale d'un bateau où ces premiers personnages vont être enfermés 6 mois pendant leur déportation jusqu'en Nouvelle-Calédonie.
Et là, Solène, ils rencontrent les Kanaks, le peuple autochtone de ces îles.
Oui, et eux subissent évidemment les effets de la colonisation. La France coloniale cherchait à cette époque un endroit où créer une colonie pénitentiaire, le fameux bagne, mais aussi à s'installer plus largement sur le territoire calédonien. Et pour ça, ils ont confisqué les terres des Kanaks, enfin sauf celles qui ne sont pas très cultivables. Cela entraîne des révoltes, et parmi les plus connues, il y a celle menée par le chef de guerre Ataï, joué sur scène par le calédonien Simané Venetem.
Et ce spectacle, Solène, c'est presque une leçon d'histoire, hein, il est particulièrement documenté.
Oui, c'est une succession de tableaux assez réalistes, la Casbah, la Bretagne, le bateau, le bagne. On voit aussi des portraits de ces personnages historiques projetés sur les décors. Il y a de vrais discours de l'époque repris par les comédiens, un parti pris réaliste que nous explique Abdelouef Sefsaf.
Cette histoire, elle est complexe, il y a trois récits en un. Ma préoccupation de metteur en scène, elle a été ensuite d'accompagner le spectateur avec le décor de Souad Sefsaf, qui reconstitue le fort de Kellerne, la reconstitution aussi de cette célèbre porte de la Casbah qui ensuite va être détruite par le pouvoir colonial. Il y a évidemment la case du grand chef Ataï. Le décor nous aide à nous situer, mais également les costumes. Il y a un réalisme, pour moi, nécessaire dans les costumes pour aider cette compréhension.
Et puis évidemment, on l'a beaucoup entendu, la musique est très importante. En fait, c'est carrément du théâtre musical. Ça chante peut-être plus que ça ne parle. Abdelouef Sefsaf a été dans des groupes de musique pendant de nombreuses années comme Nomad in France et il est habitué à mélanger les styles musicaux. C'est aussi ce qu'il a voulu faire dans Khaldoun.
Dans ce travail, l'idée c'était d'ancrer l'histoire dans un imaginaire, dans une musique imaginaire, une créolisation possible de ces trois cultures qui en réalité n'a jamais existé. Le défi c'était d'intégrer cette culture de la chanson, des chansonniers comme une art qu'en réalité je ne connaissais pas si bien que ça. Et le métissage avec la culture kanak, je savais qu'elle ne serait pas possible sans aller en Calédonie. Donc nous sommes allés en Calédonie, nous avons rencontré des artistes kanak, on a organisé des concerts, on a chanté avec eux. Et là, j'ai mieux compris l'approche qui était la leur.
Pour nous, le public, c'est l'occasion d'entendre aussi des instruments qu'on connaît très peu. Il y a du doukdouk, un hautbois du Caucase, du kanoun, un instrument à cordes pincées très joué dans le monde arabe, ou encore du nickel harpa, ça je connaissais pas, un instrument suédois, une sorte de violon avec des touches. Rien que pour ça, je vous recommande d'aller voir Khaldoun pour écouter par vos propres oreilles, mais aussi découvrir une page de l'histoire méconnue.
Oui, des instruments rares en plus. Merci Solène Gardré. Ce spectacle Khaldoun est à voir jusqu'au 19 janvier au Théâtre de la Tempête à Paris, puis il partira en tournée Sartrouville-Bourg-en-Bresse ou Lille en mars prochain. Safia Nolin, Philippe Cyr du théâtre musical comme dans Khaldoun, j'imagine que ça résonne fortement à vos oreilles.
Ah, absolument, la musique est quelque chose d'absolument irremplaçable pour véhiculer toute l'âme d'un propos, d'un spectacle.
Je suis d'accord avec Philippe. C'est le seul moyen que je connais, mais je suis d'accord totalement.
Alors, on n'est pas là dans Khaldoun, dans le registre de l'intime. Au contraire, on est dans le registre de la grande histoire, des méfaits de la colonisation. Mais c'est aussi une façon de s'emparer des sujets qui comptent.
C'est une façon de, je dirais, transcender aussi les sujets difficiles, de les transposer, de s'approprier une matière qui est ardue et de la proposer autrement, pour la comprendre autrement, selon un point de vue particulier.
Mm-hmm. Vous iriez voir Khaldoun? Vous
Absolument.
Avez le temps?
Non, malheureusement. Bon.
Il va en tourner après.
Ça a l'air super bon.
C'est l'intention, c'est l'intention qui compte.
Peut-être ça va venir à Montréal.
C'est l'intention qui compte, évidemment, et peut-être qu'ils seront en tournée, effectivement, à Montréal. Les librairies du monde, tous les mardis, dans cette émission, on parcourt ensemble ces lieux de savoir et de culture pour découvrir d'autres horizons, pour nourrir notre imaginaire. On est aujourd'hui à Bucarest, la librairie Kiralina, avec vous, Mathieu Fabre. Alors, La pire espèce, c'est le titre du roman dont vous nous parlez. Il est signé Christiane Foulache. C'est le deuxième roman de cet auteur qui est traduit du roumain en français. Et alors, un peu comme la semaine dernière, hein, au Sénégal, avec Farine Dao, on plonge dans les turpitudes de la vie politique en Roumanie. Ça commence, Mathieu, avec l'annonce de l'incarcération du chef du gouvernement, c'est ça ?
Oui, c'est exactement ça. Donc, en fait, ce chef-là, le Bricourt qui va aller en prison, qui va être jugé, et ça déclenche pendant toute une journée, parce que tout le roman se passe en une seule journée, tout un tumulte, parce que ça chamboule tout un petit microcosme de relations d'affaires, de pouvoir et d'influence. Et voilà, c'est ça, ce roman.
Ce chef du gouvernement, donc, c'est Miron. Il y a un autre personnage important, peut-être même le personnage principal, c'est Victor, son homme de confiance, c'est ça ?
Oui, parce qu'en fait, Miron, on en parle beaucoup, mais on le voit assez peu. Mais en fait, tout passe par Victor, puisque c'est son homme de confiance, Victor, qui coordonnait tout. Donc tous les petits trafics d'influence, tous les paiements aux journalistes, tous les gens à qui il fallait parler, c'était lui.
Ouais.
Et en fait, bah, cette incarcération à venir, ça mélange tout, parce ouais. que bah, ouais. il se retrouve à tout gérer, en fait.
Donc il y a Victor, il y a Miron, et puis il y a toute une galaxie de personnages secondaires autour. C'est un roman truculent, animé, dans un style très cru, Mathieu Fabre.
Oh oui, c'est disons que vraiment la caste politico-médiatique en prend vraiment pour son grade entre les affairistes. Enfin, le vocabulaire est très cru et Foulache, il les dépeint vraiment d'une façon très peu agréable, on va dire.
Ils en prennent pour leur grade. Il n'est pas tendre avec eux.
Pas du tout.
C'est le deuxième roman traduit du roumain en français. Alors, on est très loin, il faut peut-être le dire, hein, de l'univers du précédent roman, Yoshka, qui se passait dans le silence des Carpates avec un vieil homme et ses souvenirs. Foulache est sur un tout autre registre. Là. Il a plusieurs cordes à son arc.
Ah oui, complètement. Mais ça, Foulache, c'est vraiment un auteur qui est assez aventureux dans le sens où il essaie toujours de se renouveler et là on est quasiment aux antipodes en fait entre le silence et le temps qui passe du premier qui était un personnage à part et là une cacophonie permanente et des personnages horribles en fait.
Alors ce qu'on n'a pas dit c'est que Foulache est aussi traducteur, hein. Alors c'est pas lui qui traduit ses ouvrages du roumain en français mais lui il a traduit Proust quand même, hein, sacré morceau, il s'attaque à Céline aussi. Est-ce que Mathieu Fabre ça joue aussi sur son écriture et sur son imaginaire finalement?
Eh ben, probablement, parce que c'est vrai que si on a affaire à quelqu'un qui est capable de traduire d'un côté Proust et de l'autre côté Céline, on a vraiment quelqu'un qui est capable de faire des grands écarts complets, parce que là, c'est deux univers aux antipodes aussi, tout comme ses romans et tout comme les romans à venir probablement d'ailleurs.
Ouais, il est contemplatif quand il traduit La Recherche et puis plus truculent quand il plonge dans l'univers de Céline. Alors ce roman est paru en roumain il y a quelques temps déjà, en 2023. Or, on le sait, hein, depuis quelques semaines, la Roumanie est en pleine crise politique, enfin particulièrement depuis quelques semaines, avec l'annulation de l'élection présidentielle sur des soupçons d'interférence russe dans la campagne. Est-ce qu'il est question aussi de ces thèmes-là dans ce livre, Mathieu Fabre ?
Oui, bah, de tout ce qui est désinformation, trafic d'influence, réseaux sociaux, journaux corrompus, etc. On est vraiment dedans. Donc en fait, ça pourrait résumer le contexte actuel. Mais le fait qu'il ait écrit avant, ça montre finalement que tout ce qui se passe actuellement était déjà inscrit depuis longtemps, finalement, dans le contexte politico-économique roumain.
C'est une sorte de constat sur les dernières décennies, depuis la chute de la dictature. C'est ça, en gros.
Exactement. Oui, c'est totalement ça. Il y a un constat peu flatteur.
La pire espèce de Christiane Foulache apparaître dans quelques semaines en France. L'éditeur s'appelle La Peuplade. Merci Mathieu Fabre de nous l'avoir fait découvrir en exclusivité, hein, même à nos auditeurs. Et puis si vous nous écoutez à Bucarest, que vous passez par cette librairie Kiralina, eh bien donc allez faire un petit tour, un petit coucou à l'équipe. Safia Nolin, Philippe Cyr, je vous demandais avant l'émission quelle était votre librairie favorite à Montréal. On a besoin d'adresses pour les prochaines chroniques. Il y en a plusieurs, j'imagine, de ces librairies francophones dans lesquelles vous allez vous-même chiner, puiser de l'inspiration.
Le Gillian, qui est une librairie féministe, queer, dans le quartier gay, si je me souviens. Dans le village.
Oui, dans le village, oui. Excellent choix.
Vraiment, j'adore cette librairie.
Moi, je dirais la librairie juste en face du Théâtre Prospero à Montréal.
J'adore aussi. En face du Théâtre Prospero, où c'est joué, surveillé et puni.
C'est une petite librairie magnifique avec un travail de commissariat fantastique.
Le travail de commissariat, c'est super.
Oui, je dirais jusque-là parce que c'est vraiment une petite librairie. Alors, toute leur sélection est très choisie.
C'est
Ils connaissent
vrai.
Très bien leur matériel. Alors, c'est vraiment
artisanal.
Très, très chouette.
Il y a un petit café à l'intérieur en plus.
Ouais.
Vous évoquiez Prospero, le futur de ce spectacle Surveillé et puni, quel est-il? Vous avez envie évidemment que ça SM un peu partout.
Vegas.
Qu'est-ce qui est prévu?
Alors, les prochaines dates...
Pourquoi pas? Moi, je suis ouverte, hein, c'est une blague, mais je laisse ça dans l'univers.
Oui, parce qu'avec l'arrivée
vous
de Trump...
Vous savez qu'RFI, c'est la radio mondiale. Hein.
Ouais.
Il y a peut-être des gens qui vous écoutent là-bas.
J'espère. Alors, les prochaines dates prévues, c'est à Québec, dans la ville de Québec. Et ensuite, on a toutes sortes de belles invitations qu'on essaie de concrétiser.
Avec des festivals, j'imagine.
Des festivals, avec des d'autres villes européennes, d'autres endroits à travers le Québec aussi également.
Mm-hmm. Safia Nolin, un dernier mot. Ce spectacle, pour vous, ça a été une forme de thérapie?
Oui, vraiment, ça l'a comme transformé quelque chose qui existait, qui était super négatif, en quelque chose de concret, de beau, de plaisant. Tu sais, je vis beaucoup de trucs en faisant le spectacle, mais en le construisant, puis en étant entourée de toute cette équipe-là, c'est vraiment un cadeau pour moi.
Mmh, mmh. Et mmh. Donc, vous espérez évidemment que ça se poursuive.
Les insultes, évidemment, pour pouvoir faire un deuxième
non,
spectacle.
Non, absolument pas. Évidemment pas. Que le spectacle absolument. Suive sa route et se poursuive. Un mot encore, puisqu'on a parlé de choses graves, mais sur un ton plutôt léger. Hein. Un mot encore pour vous dire qu'on connaît les noms des 5 finalistes du prix RFI Talent du Rire. 5 finalistes, donc le lauréat sera connu fin février à Abidjan à l'occasion de la 10e édition de ce prix. 2 de ces finalistes viennent du Cameroun. Docta Kevin et Petit Gougou, également dans la sélection d'Ali Cardinal de République du Congo, Doyen Anas des Comores et, excusez du peu, Ministère du Rire de Côte d'Ivoire. On aura l'occasion de reparler de ce prix dans cette émission vendredi avec Maman et avec Sini Yansane qui est journaliste ici à RFI, membre du jury, nous racontera les coulisses des délibérations.
Forget it, forget it, Fugazi. Love up in all, cause me a Richard Millie, the same week. I got me a new Gucci. All the girl, them love me, oh, what I'm feeling. I am shining, they come and resize it. What I no get any me, but they hating on my water Fiji. Elimo, money, I dey born. I dey cash out on it all. I give all glory to God. I dey hands up, rocking a less and I won. I dey polo, I dey ball. The energy I be born.
Le Nigérian Rema avec ce titre Yayo pour refermer cette émission. Merci à tous les deux.
Merci.
Safia Nolin, Philippe Cyr, d'être passés par les studios d'RFI. Surveillés et punis. Spectacle bouleversant, on l'aura évidemment compris, à voir cette semaine, jeudi, vendredi et samedi, au Plateau Sauvage à Paris. Damien Roucou était à la programmation. Pierre Plantier à la réalisation. Sur le Pont des Arts revient demain avec l'écrivain et académicien Andrei Makine. Son dernier roman, Prisonnier du rêve écarlate, vient de sortir. On y parcourt 80 ans d'histoire à travers le destin d'un jeune communiste français victime de sa foi dans le collectivisme. On vous attend évidemment 15h10 temps universel et dans une minute le journal en français facile.